Donc, il s'agit de notre deuxième rencontre. Alors la rencontre de cet après-midi se fera en plusieurs temps. Nous allons aborder deux sujets. Le premier sujet que nous allons voir maintenant, c'est celui-ci. Dieu accorde des dons pour le bien de son Église, pour notre bien. Alors comment va se passer ce moment ? Je vais vous présenter un certain nombre de textes bibliques. Alors, la totalité de ce qui sera projeté sont des textes bibliques. Le seul qui n'en est pas, c'est celui-ci, c'est la première page. Mais donc, je ne sais pas, s'il faut à chaque fois que je précise quelle est la référence qui est écrite en principe en bas sur la droite. Mais en tout cas, voilà, sachez que les choses qui seront projetées sont les textes bibliques. Alors, nous aurons donc un premier temps. Je vous partagerai un certain nombre de choses. Et à la suite de ce moment, nous aurons un temps plutôt là de questions-réponses, d'échanges, et pas simplement des questions que vous me posez, mais des questions, justement, on est là ensemble, où on pourra mutuellement s'éclairer ou préciser un certain nombre de choses. Alors, on a pris un peu de retard par rapport à l'horaire, sachant qu'on avait après une marge qui nous permettait un petit glissement. Donc on devrait à peu près en tout cas retomber sur nos pattes tout à l'heure. Mais je vous invite déjà à nous remettre dans la prière pour ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi dans tous les instants de notre vie. Toi tu es toujours là, tu es toujours disponible. Parce que nous sommes... vu au travers de Jésus-Christ, tu es toujours bien disposé par rapport à nous. Donne-nous, Seigneur, d'être également bien disposé par rapport à toi. D'être disponible, ce que tu veux nous dire, d'être disposé, Seigneur, à nous laisser conduire, modeler par toi. Nous prions pour cette rencontre, qu'au travers de tout ce qui pourra être dit, au travers de nos échanges, tu puisses ainsi nous éclairer, que tu puisses nous éclairer sur ta personne, que nous puissions être réchauffés par ta lumière. Et que tu puisses aussi nous éclairer sur notre chemin, que nous sachions dans quelle direction aller. Merci Seigneur, car tu nous as promis que lorsque nous nous réunissons en ton nom, tu es au milieu de nous. Et c'est un privilège que nous avons, Seigneur, de t'avoir pour Dieu. Et nous voulons vraiment te donner la première place. Toi sois la gloire, Seigneur. Amen. Dieu accorde des dons pour le bien de son Église, pour notre bien. 1 Pierre 4,10 nous dit « Chacun de vous a reçu un don particulier. » Chacun de vous. Alors si vous ne connaissez pas votre don, ça ne signifie pas que Dieu ne nous en a pas accordé, mais cela signifie simplement, si on s'appuie sur ce que nous dit la parole de Dieu, que si nous ne connaissons pas nos dons, alors c'est que nous ne les avons pas encore découverts. Parce que à chacun de nous, Dieu accorde un don particulier. Alors, un don ou des dons ? Un certain nombre de versets mentionnent un don. Et au travers de la Bible, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on peut dire que Dieu accorde un don. Mais un don dans le sens où c'est Dieu qui accorde à l'homme. Mais pour nous, avec nos critères humains, vous savez, nous on aime bien des fois... essayer de cataloguer un petit peu tout, selon nos propres critères, on pourrait des fois appeler ça des dons. Par exemple, l'apôtre Paul, si nous, en tant qu'être humain, on essaie de classifier tous les dons, il avait à la fois reçu le don d'être apôtre, docteur, enseignant, il faisait des miracles, il parlait en langue, il était pasteur, il était évangéliste, il avait une foi extraordinaire. Et nous, humainement, on dirait à chaque fois, c'est un don. Mais en fait, tout ça fait partie, lorsque la Bible nous dit que vous avez reçu un don, c'est ce que Dieu nous a donné en particulier. Nous avons tous reçu des dons, alors pas les mêmes que Paul, bien sûr, parce que chacun de nous a reçu un don particulier. Et ces dons nous ont été accordés non pas en raison de notre mérite, mais uniquement par grâce. Le mot « don » en grec « charisma » signifie « reçu par grâce ». Et quelque chose... Enfin, moi, je sais que ça a tendance à me choquer. Je ne sais pas vous, Parce que moi, mon approche de la vie est plutôt que j'accorde des dons au mérite. Enfin, quelque part, ce n'est pas un don, d'ailleurs, c'est plus un salaire. Mais pourtant, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous accorde des dons, mais pas en raison du mérite. Et un exemple qu'on a, qui est flagrant dans la Bible, c'est l'exemple des Corinthiens. Parce que plus que toute autre église citée dans le Nouveau Testament, les Corinthiens avaient des dons. Paul même, lorsqu'il leur écrit, dit « Ainsi donc, il ne vous manque » donc c'est aux Corinthiens qu'il parle « Il ne vous manque aucun don. » Alors, comme vous savez, humainement, on pourrait s'imaginer que si Dieu leur accordait tous les dons, c'est certainement parce qu'ils le méritaient, en récompense à leur fidélité, ou bien comme un signe de leur consécration au Seigneur. Plus on est consacré, plus Dieu nous accorde de dons. Ça peut sembler humainement logique, mais en fait, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Au contraire, elle nous dit tout autre chose, et Paul, lorsqu'il parle de l'enseignement qu'il a donné aux Corinthiens, leur écrit ceci, « Je vous ai donné du lait, donc l'enseignement qu'il leur a dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Bien qu'ayant reçu tous les dons, il ne leur manquait aucun don, les Corinthiens ne témoignent pas d'une grande spiritualité, au contraire, ils sont encore charnels. Alors c'est une façon de Paul de s'exprimer, mais en tout cas, ça témoigne que loin de manifester une maturité spirituelle, les Corinthiens continuaient à vivre malheureusement comme beaucoup d'hommes et de femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Et pourtant, il ne leur manquait aucun don. Et les dons spirituels portent donc bien leur nom. Un don, c'est quelque chose que l'on donne non pas en raison d'un mérite, et ils nous sont bien accordés par grâce. Et ils nous sont accordés, ce que la Bible nous dit, ils nous sont accordés souverainement par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 4 et 11, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, un seul et même Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. » Comme il veut. Parce que nous avons reçu nos dons par grâce, et non pas comme une récompense. Nos dons, alors, ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas un salaire. Ils nous ont été confiés par Dieu, et nous n'en sommes que les gérants. Et Dieu attend que nous mettions nos dons au service des autres. 1 Pierre 4, 10. Chacun de vous a reçu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. J'ai trouvé cette citation que j'ai trouvée vraiment très, très intéressante qui dit « Ce n'est pas au don qu'il a reçu que l'on mesure la fidélité d'un chrétien. Ce n'est pas au don qu'il a reçu. » Mais c'est à l'usage qu'il fait de ses dons pour la gloire de Dieu. Et je trouve ça vraiment très juste. Les dons que nous avons reçus doivent être mis au service des autres. Parce que les dons qui nous ont été confiés souverainement par Dieu poursuivent toujours le même but, l'édification, la construction, l'épanouissement, le développement de son corps, de son Église. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, 7. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit, pour quelle raison, pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. Nos dons nous ont été accordés pour le bien de tous, pour la croissance, pour l'édification de son Église. Et l'Église, c'est nous. Nous sommes le corps de Christ. Dieu prend soin de son Église, Dieu prend soin de nous, et il le fait en accordant à chacun des dons qui, mis au service de l'Église, vont faire que l'Église va s'épanouir, va grandir, va aller dans la direction que Dieu veut qu'elle emprunte. Dieu nous a accordé des dons. Dans la très grande majorité des cas, ces dons vont correspondre à nos aspirations. Par exemple, celui qui a reçu un don de miséricorde manifeste, entre guillemets, naturellement, de la compassion envers ceux qui souffrent. Celui qui a reçu un don d'enseignement aime transmettre les connaissances qu'il a acquises. Celui qui a reçu un don de service éprouve de la satisfaction à faire des choses pratiques pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Alors il y a une sorte de mythe qui existe dans le milieu chrétien, c'est celui de croire que Dieu va nous demander de faire exactement l'inverse de ce que nous aimons faire. Alors vous avez probablement déjà lu ce genre de témoignage. Je ne voulais surtout pas être pasteur, mais Dieu m'a dit d'être pasteur. Je ne voulais surtout pas partir en mission, et Dieu m'a demandé de partir en mission. Alors, croyons-nous que Dieu, par exemple, donc si on va dans cette logique, croyons-nous que Dieu va demander à quelqu'un qui ne supporte pas les enfants, par exemple, de s'occuper de la garderie et d'enseigner les enfants? Est-ce que ce serait une bonne chose pour cette personne? Peut-être. Peut-être qu'elle a besoin de passer par là pour aimer davantage les enfants, même si je ne suis pas sûr que cette expérience soit positive. Mais en tout cas, est-ce que ce serait une bonne chose pour les enfants? Non, certainement pas. Notre Église agirait-elle avec sagesse en confiant les enfants à une personne qui n'a ni le goût pour le faire, ni l'aptitude pour cela? Non, on s'appuie bien sur les critères ou les qualités, les dispositions de la personne. Nous devons briser ce mythe qui consiste à croire que Dieu va refuser que nous nous engagions là où nous avons envie de le faire. Mais qu'au contraire, il va justement nous demander de faire l'inverse. Et on peut se poser des fois, mais quelle est donc cette image de Dieu que l'on a lorsqu'on croit ça? Et où trouvons-nous aussi cela dans la Bible? Où trouvons-nous cela? Alors bien sûr, si ce que nous aimons est un péché, là effectivement, la Bible nous demande d'abandonner ça. Je ne dis pas que tout ce qu'on aime est forcément bien. Mais pour le reste, pour ce qui n'est pas un péché, pour ce que nous aimons, Dieu ne nous demande pas d'abandonner ces choses. Et bien au contraire, c'est même peut-être l'Esprit de Dieu qui nous a donné le goût pour ces choses. Philippiens 2,13, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Qui va le mieux évangéliser, partager sa foi avec les autres? Ce sont justement ceux qui ont plaisir à parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Qui va le mieux décorer l'Église, arranger les choses avec goût pour que l'Église soit belle et agréable? C'est justement ceux qui ont une certaine sensibilité à cela, qui ont plaisir à rendre les choses belles. Qui va le mieux intercéder pour ceux qui en ont besoin? Qui va le mieux intercéder pour la santé de notre Église? Justement, ceux pour qui prier est un plaisir. La volonté de Dieu, c'est que nous exercions pleinement de tout notre cœur les dons qu'il nous a accordés. Et c'est grâce à l'usage de ces dons que nous pourrons ensemble grandir en Christ. Romains 12, les versets de 5 à 8. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie. Qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. que notre Dieu nous donne de pouvoir discerner nos dons pour que nous puissions nous aussi le servir avec joie. Amen. Maintenant, un temps avant de passer à la deuxième partie. On va avoir maintenant un temps de questions-réponses. Alors, la partie que nous allons voir après, finalement, c'est que nos dons doivent se développer, s'exercer et être confirmés. Donc, l'idée que lorsqu'on a un don, il faut que ce don, petit à petit, se développe.
Alors, je serai votre modérateur. C'est-à-dire que je vais modérer vos remarques peut-être un peu trop violentes, ou essayer peut-être de réveiller celles qui ne sont pas encore bien arrivées à point. Donc voilà, la parole est à vous. Si vous avez des questions, eh bien posez-les maintenant à Pierre-Yves, et puis quelqu'un d'autre veut intervenir pour apporter un complément de réponse, hein, il peut le faire, hein. Voilà, c'est un moment libre, à partir de ce qui nous a été dit, pour que chacun puisse maintenant réagir en fonction de ce qui a été dit, avec ses questions, avec ses remarques. Voilà, je vous laisse la parole, et si vous la prenez trop longtemps, je vous arrêterai. Oui, Gérard.
Alors, est-ce qu'il est juste de penser que dans les dons, il y a des dons qui concernent les hommes et d'autres qui concernent l'Église, et que ce sont des dons différents? Parce que dans 1 Corinthiens 12, il nous est dit qu'il a donné des paroles de sagesse, de connaissance, de foi, et un peu plus loin, il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs. Est-ce qu'il n'y a pas des dons qui sont donnés pour du 1 à 1, et donc qui nous sont donnés, et des dons qui sont donnés comme des ministères pour toute l'Église? Mm-hmm. Il y a des dons pour l'homme, et des dons qui sont donnés aux hommes, et des dons donnés à l'Église. Enfin, est-ce que c'est juste comme ça?
Très bien.
Je pense que par exemple, quand il est mentionné spécifiquement les apôtres ou les pasteurs, là on voit une personne ayant exercé un ministère auprès de plusieurs. Mais je pense que même dans les ministères de 1 à 1, je veux dire, quelqu'un qui prend soin d'une personne en particulier dans l'église, un ministère de visite, quelqu'un qui a de la compassion, il s'inscrit dans la même dynamique voulue par le Seigneur, c'est: on prend soin de l'Église lorsqu'on prend soin d'une des personnes qui appartient à l'Église. Simplement, il y en a qui ont un ministère qui s'adresse plutôt, dirais, à un ensemble, et d'autres qui sont, au contraire, qui ont une sensibilité, une capacité, de se mettre en relation vraiment de façon beaucoup plus proche, beaucoup plus profonde, pour faire un ministère de l'un. Mais est-ce qu'il faut opposer les uns aux autres? Je ne pense pas. Au contraire, c'est prendre soin de quelqu'un dans l'Église, c'est prendre soin de toute façon de l'Église.
Par exemple, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une vocation d'infirmier, qui secourt les malheureux, quand on y secourait les malheureux, dans la Bible, ça peut s'appliquer à un infirmier, à un médecin, tout ça. Est-ce que cette vocation, utilise le terme exprès, qui s'exerce en dehors de tout cadre spirituel, reste un don de Dieu, même si certains l'Église, parce que ces gens-là ne font pas partie de l'Église, ou est-ce que c'est juste une qualité qui n'est pas considérée comme un don? Je ne sais pas si c'est très clair.
Est-ce que quelqu'un qui aurait reçu un don, mais qui s'exerçait en dehors de l'Église, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un don? Je pense que ce qui est frappant, en tout cas là, quand on regarde les dons dans la Bible, c'est que vraiment, il y a 4 passages dans la Bible qui traitent plus spécifiquement des dons, et tous insistent toujours sur 3 choses: l'aspect de la diversité, l'aspect de l'unité en Christ, et l'aspect que le moteur de ça, ça doit être l'amour, et l'aspect que ça sert au bien commun. Mais parce que la Bible, je dirais, s'intéresse plus particulièrement ces contextes-là, mais est-ce que quelqu'un qui se met à prendre soin de son prochain, on peut dire ça, en dehors de tout cadre d'église, moi je pense qu'en tout cas, je ne sais pas si là on peut dire que c'est un don, en tout cas c'est un fruit de l'esprit, parce qu'on manifeste de l'amour.
Alors c'est quoi la différence entre le don et le fruit de l'esprit, si ça s'exerce dans l'église ou pas dans l'église?
Alors, en tout cas, ce qu'on pense ressortir de la Bible, c'est que les fruits de l'esprit devraient être la manifestation normale de dans la vie de tout chrétien. Un chrétien doit porter du fruit, les fruits de l'esprit. Si jamais on n'a pas de compassion, si on n'a pas d'amour, on peut se dire qu'on a un problème dans notre vie. Il ne semble pas qu'il y ait de chrétiens pour qui, ben non, moi, ce fruit de l'esprit, je n'ai pas à le manifester. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas juste, je mens. Non, ça ne semble pas en tout cas compatible. Alors que les dons. Tout le monde, les Bibles insistent assez là-dessus, tout le monde n'a pas reçu les mêmes dons. Et est-ce que si quelqu'un n'exerce pas son don, est-ce qu'on peut considérer que c'est un péché ou pas?
Je crois que, enfin, je ne sais pas si la question de l'ordre est exactement ça. Quand je répondais à la question suivante, c'est que c'est le même donateur qui fait les dons naturels, l'aptitude soit au solide et mal, par exemple, ou pas sûr pour les mâles, et qui donne aussi des dons spirituels. Mais c'est le même donateur, c'est le même Dieu. Hein. Mais bien sûr, à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. Mais donc, il y a des dons naturels, qui viennent bien aussi de Dieu, aussi bien que les dons spirituels. Et les dons spirituels, je trouve que c'est encore mieux.
Alors, quelle est la différence entre un don naturel et un don spirituel?
Moi, il me semble que, pour aller dans le sens de ce que Jean dit, Dieu aime tous les hommes. Que ces hommes-là l'aiment ou ne l'aiment pas, mais Dieu aime tous les hommes et fait des dons à tous les hommes. Il fait lever son soleil sur tous. Et je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler la grâce commune, qui est le fait que Dieu fait des dons à tous les hommes. Hein, il y a un passage dans les Actes qui dit que c'est Dieu qui donne de la joie au cœur des païens, de ceux qui ne le connaissent pas. Et je pense que Dieu peut tout à fait susciter dans le cœur de personnes qui ne le connaissent absolument pas de la compassion, de l'amour pour les autres, et ce qui explique ce qu'on peut voir autour de nous. Je veux dire, il y a des non-chrétiens qui ont des conduites altruistes absolument fantastiques. Je crois que ce qui fait la spécificité du don spirituel, les deux sont de même nature que je pense. Mais la différence, c'est le but. Le don spirituel, il a en plus vocation de faire grandir l'Église.
Donc, quelqu'un qui va exercer un don de compassion dans le cadre de son métier, mais qui ne va pas forcément faire grandir l'Église, ça se parle.
Il peut avoir ce don-là aussi dans le cadre de l'Église, ou peut-être quelque chose de totalement différent, on l'a exercé dans le cadre de l'Église. Mais bon. Je pense que c'est difficile d'être blanc quand on est civil et noir quand on est militaire. Donc, moi je crois la seule véritable différence, peut-être qu'elle est aussi dans l'intensité, et puis aussi dans la compréhension. Pourquoi est-ce que j'ai le désir d'aider les autres? Parce que Dieu m'a aimé le premier. Peut-être qu'un non-chrétien, il a ce désir d'aimer les autres, mais il ne sait pas. Finalement, au fond, il ne sait pas tellement pourquoi. C'est pas comme ça qu'il est. Voilà.
Puis, je pense aussi, c'est qu'en fait, des fois, on essaye justement de classifier les choses, de dire, bah, tiens, ça c'est dans l'Église ou pas. La Bible met vraiment l'accent sur l'utilité, en tout cas dans une communauté, de bénéficier de la diversité des dons. Et que une église, c'est pas que des gens qui fonctionnent comme ça, que des gens qui fonctionnent comment, mais elle met vraiment l'accent sur, attention, il y a une diversité, une variété, mais pourtant, vous devez avancer ensemble, et c'est grâce à cette diversité que vous pouvez grandir. Mais ça, ça signifie pas que, pour autant, que ça nous empêche de manifester ces dons même vers l'extérieur. Je veux dire, si quelqu'un, je serais très surpris que si quelqu'un avait vraiment un don de compassion au sein de l'Église, il ne l'est pas aussi pour l'extérieur. Et que de toute façon, que ce don soit exercé dans l'Église ou à l'extérieur, c'est quelque chose qui réjouit Dieu. Et après, on pourrait, ou pourrait y avoir peut-être une tension, c'est si quelqu'un était tellement investi à l'extérieur qu'il ne soit plus du tout investi dans l'Église. Là, peut-être, devant lui, il pourrait se poser la question, mais peut-être qu'il a un appel particulier. Les évangélistes, par exemple, le propre des évangélistes, hein, c'est que, justement, ils ne travaillent pas dans l'Église, ils travaillent à l'extérieur. Évidemment, peut-être pour faire rentrer dans l'Église, mais que ça fait bien partie des gens, en tout cas, qui, leur investissement n'est pas pour leurs frères et sœurs déjà présents en Christ, mais sur les prochains.
Attendez, je sais bien de lever la main. Mais il y a Nathalie qui a demandé la parole, ensuite Fred, et ensuite Cathy.
Non, moi je rebondissais sur ce que vous disiez, qu'effectivement il me semble que toute l'action pour les chrétiens dans le monde extérieur, par les associations et tout ça, que ça, ça a aussi un retentissement dans les églises, justement, en témoignage, voilà, ça fait partie de. Donc c'est pas forcément complètement extérieur, même si ça s'exerce à l'extérieur.
Oui, ça fait partie de l'Église, comme les actions sociales, les œuvres de bienfaisance, etc. Donc, c'est un témoignage chrétien rendu au monde. Hein. Donc, il y a des dons là, qui s'y exercent. C'est ça que tu veux dire.
Ça ne paraît pas des choses proposées.
Voilà. On va juste poser, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, c'était différente entre don naturel et don spirituel. Alors, on va un tout petit peu aborder ça, mais moi l'impression que j'ai, hein, c'est que ce qui caractérise un don spirituel et un don naturel, c'est que le don spirituel a des fruits spirituels. C'est que ce don va avoir un fruit, et ce fruit va contribuer à la gloire de Dieu ou à l'édification mutuelle. Alors, tout à l'heure, après peut-être dans le deuxième temps, on pourra revenir dessus si vous avez l'impression que ça n'a pas été mis en avant dans la deuxième partie, mais en tout cas, on va un petit peu aborder ça.
Fred.
Je me disais aussi qu'un chrétien qui met en œuvre son don, ses dons, il va aussi le faire d'une certaine manière, qui n'est peut-être pas la même que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc dans la façon d'exercer son don, dans sa source aussi, comment l'exercer, ben il va aussi révéler dans la Bible comment on fait les autres avant lui, enfin ceux qui avaient eux-mêmes. Et puis il va chercher dans la prière. Il va chercher la volonté de Dieu, comment évoluer, comment s'adapter, etc. Enfin, voilà, dans la manière de faire, il y aura aussi un vrai état d'esprit, ce qui est étonnant, parce qu'on a un esprit. Mais voilà, c'est une différence que je voulais.
Mm-hmm. Ok.
Juste, ça concerne un peu ce qui m'a dit, mais je pense qu'il y a une différence entre les œuvres que doivent pratiquer les chrétiens et les dons. Les œuvres, c'est le fruit de l'amour du chrétien qui va manifester, que ce soit dans les œuvres charitatives, que ce soit, etc. Les dons, c'est quand même la notion d'aptitude particulière, spirituelle ou naturelle, mais d'une aptitude particulière qu'on a, que l'autre n'a pas. Je veux dire que un a et pas forcément tout le monde, alors qu'on est tous invités à pratiquer les dons justes. Et je voudrais juste rappeler que le premier don spirituel qu'on a tous reçu, c'est le Saint-Esprit. On a reçu le don du Saint-Esprit, donc par essence, on a tous un don spirituel, c'est la présence du Saint-Esprit. Et je trouve intéressant dans un Corinthien, il parle de manifestation de l'esprit pour désigner les dons. Et je pense qu'effectivement, souvent, ça s'appuie sur un don naturel, cette aptitude, mais qui va être une manifestation de l'esprit au travers de ce don naturel, de cette aptitude.
Et puis, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il caractérise le don, quelqu'un qui a reçu un don de celui qui ne l'a pas reçu, c'est que celui qui a reçu un don va avoir des capacités plus fortes que ses frères et sœurs qui n'ont pas reçu le même don. Alors, avec, entre parenthèses, peut-être certains dons qui en trouvent chez personne. Après, est-ce que ces dons existent encore ou pas, c'est pas le débat aujourd'hui. C'est le don de guérison, vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est pas, ben, moi j'ai un tout petit peu, moi je l'ai pas du tout. Mais autrement, par exemple, dans la Bible, nous sommes tous, et ce qui caractérise la nouvelle alliance et la réception du Saint-Esprit, c'est que nous sommes tous maintenant des prophètes, dans le sens où tous nous pouvons apporter une parole inspirée, tous. Mais certains ont reçu ce don plus que d'autres. Nous sommes tous des évangélistes, tous nous pouvons témoigner de notre foi. Mais certains ont reçu une aptitude particulière. Tous nous devons avoir de la compassion. mais certains manifestent ça de façon beaucoup plus importante. Parce que c'est pas non plus, l'absence de don n'est pas non plus un moyen par lequel les chrétiens peuvent se défausser. Moi, j'ai pas reçu le don du ménage, donc je fais pas le ménage. Non, ça fait partie d'un don de service. Tout le monde est en service dans l'église. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une aptitude particulière pour se mettre au service des autres, pour faire en sorte que les autres, dans leur projet, vont recevoir un soutien, apporter une aide pratique. Mais voilà, je pense que la différence entre celui qui a reçu un don, celui qui n'a pas reçu de don, donc à l'exception du don de guérison, du don par exemple de parler en langue et d'interprétation en langue, c'est que tous, on en a un petit peu chez nous. Mais certains ont une. Enfin, que Dieu va se manifester de façon plus forte, plus puissante, au travers de certaines personnes, celles qui ont reçu justement un don.
Quelqu'un d'autre ?
Je suppose que tu reviendras plus tard sur les dons liés à part qui n'existent plus ou que tout le monde.
Alors, non, par manque de temps, on a pas. On peut aborder, hein, on n'a qu'abordé les listes de dons. Alors, certains disent qu'il y en a 9, d'autres 20, d'autres 30. Certains dons existaient, d'autres pensent qu'ils existent toujours. Enfin, c'est pas l'objet, par manque de temps. Mais c'est déjà l'objectif du week-end, c'est plus qu'on ait conscience qu'on a un Dieu qui nous a accordé des dons. Et qu'on a forcément des dons. Et que ces dons, les mettre au service de l'Église, c'est à la fois bon pour l'Église, pour notre prochain et pour nous-mêmes.
Est-ce qu'il faut attendre une sorte d'appel pour se dire là il faut que j'exerce mon don? Je pense en fait depuis tout à l'heure à, je crois que c'était Moïse et Aaron qui tous les deux n'étaient pas des très bons meneurs d'hommes, par exemple, qui disaient qu'ils n'étaient pas capables, et quand Dieu leur a dit de mener des hommes, ils commençaient à discuter ça. Et je me disais, est-ce que c'est un rapport entre l'appel de Dieu, bon, c'est quand même Dieu, hein. Moi j'ai même entendu la parole de Dieu qui me disait fais ceci, fais cela, mais et le fait qu'ils n'avaient pas forcément le don pour mener ou pour.
Mais je pense que si demain Dieu t'apparaît et te dit Fred, je t'envoie je ne sais pas où, je te conseille d'y aller. Tu peux y aller, tu peux dire que c'est.
C'est pour ça que l'appel est le don, ou est-ce que Dieu est qualifié.
Alors, on va un petit peu aborder ça. Peut-être qu'on pourra revenir sur cette question dans le deuxième temps.
Non, demain.
Non, tout à l'heure, tout de suite.
Est-ce que les dons qualifient de spirituels, c'est pas au départ quand même des noms naturels que les personnes ont depuis leur naissance, et puis qui ensuite sont mis au service de l'Église quand la personne se convertit? Ces dons n'étant pas mis au service de l'Église, la personne ne se convertit pas, mais la personne a déjà ces dons pour elle-même, ça pourra peut-être avec un pianiste génial qui va être admiré du monde, mais qui ne sera pas mis au service de Dieu. Alors si cette personne se convertissait, son don extraordinaire pourrait le mettre après au service de Dieu.
Non, je pense, on va justement le voir un petit peu, je pense qu'il y a ça, mais je pense que le même pianiste. Un pianiste extrêmement talentueux pourrait se convertir et pourtant ne pas avoir un don spirituel pour la musique, dans le sens où on l'entend. Je pense que certainement que ceux qui ont reçu le don spirituel, enfin, sont en principe des musiciens qui réussissent en tout cas à produire quelque chose de suffisamment mélodieux pour conduire notre adoration vers Dieu. Mais je pense que on peut imaginer qu'un musicien virtuose se convertisse, mais pourtant. Son don musical, il pourra l'exercer que dans la société, mais dans l'Église.
Oui, mais c'est des choses. Qu'il aura le don de jouer du piano, et ensuite, par l'action du Saint-Esprit, son don pourrait être transformé plus facilement, je dirais, que quelqu'un qui n'a jamais appris et qui n'a pas le don.
Tout à fait, oui. Alors, si tu me casses un peu, tu me coupes un peu d'artillerie, parce que c'est justement un exemple que je voulais prendre bientôt, là. Mais peut-être on va peut-être attaquer.
Oui, alors on va attaquer la deuxième partie, parce qu'il y a des questions. Mais il y a une question, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut la poser ou tout à l'heure, discerner les dons, nos dons pour le service. Est-ce que c'est facile de les discerner? Est-ce que certains d'entre vous se disent « moi je n'ai pas de don » ou est-ce que vous avez tous conscience que vous avez un ou que le Seigneur vous a donné un don à mettre au service des autres? Mais c'est peut-être la deuxième partie aussi.
Okay, voilà.
Bon, alors voilà, on laisse la parole à Thierry pour la deuxième partie.